Nul besoin de dire que même vous, qui écoutez ce podcast, vous vous êtes demandé ce que vous alliez regarder en période de confinement, et peut-être encore beaucoup plus qu'à l'habitude. Votre abonnement de streaming vidéo est-il suffisant? Son catalogue vous plaît-il réellement? En avez-vous fait le tour? Sachez-le, le streaming vidéo vit des heures glorieuses, pourrions-nous dire. À l'unité ou par abonnement, la distribution des contenus vidéoludiques, thématiques, informationnels, bat un plein, et notre invité du jour en est l'un des témoins privilégiés.
Alors donc mon prénom c'est Pierre, mon nom de famille Antoine et j'ai 32 ans. Alors je suis basé à Nantes, le long de l'Erdre, en appartement avec quand même un balcon qui donne directement sur l'île de Versailles, donc c'est pas si mal. Je suis confiné avec ma compagne et notre chat.
Il dirige l'entreprise Kino qui propose aux médias de lancer, d'administrer, d'analyser leur plateforme de vidéo on demand, de VOD donc. Le 12 mars 2020, la France annonce la fermeture des écoles pour le lendemain soir et le confinement début du 17 mars. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, ton activité avec l'outil Kino a-t-elle augmenté depuis le début des mesures de lutte contre le Covid ?
Oui, on a ressenti vraiment une augmentation significative des demandes, déjà des nouveaux projets. Précédemment, avant le confinement, on enregistrait entre une et trois demandes entrantes chaque jour. Aujourd'hui, on en enregistre plutôt entre trois et six, puisqu'il y a beaucoup de nos clients et de nos cibles qui ont besoin aujourd'hui de basculer très rapidement vers une solution de VOD.
Et justement, quelle est la position des clients et des prospects depuis la mi-mars? Est-ce qu'il y a une sorte de vulnérabilité, c'est-à-dire on doit repenser le modèle rapidement, ou est-ce que voilà, c'était suffisamment dans les tuyaux pour que ça se mette en œuvre sereinement?
Et ben, finalement, il y a beaucoup de projets qui maintenant se gèrent dans l'urgence. Alors il y a quelques clients qui ont déjà des plateformes aujourd'hui avec nous, qui ont senti une augmentation du trafic qui a pu aller jusqu'à 10 fois le trafic habituel. Donc c'est effectivement des gens qui avaient anticipé la chose et donc qui se retrouvent dans une situation plus confortable. Par contre, tous les gens qui, par exemple les festivals de films qui n'avaient pas du tout prévu qu'il y aurait une situation comme celle-là, aujourd'hui sont dans l'urgence puisque l'événement physique est annulé et donc ils doivent malheureusement trouver des solutions alternatives. C'est pour ça qu'aujourd'hui on leur propose des solutions pour ça.
Oui, alors il y a une clientèle habituelle. Est-ce que ça veut dire aussi nouveaux clients et en quelle proportion par rapport à l'activité de février par exemple ?
Alors par rapport à février, on a quand même déployé 5 à 6 plateformes rien que sur le mois de mars. Sur avril, on n'a pas encore arrivé au bout du mois, mais ça va être à peu près l'équivalent si ce n'est plus. On compte notamment, comme je disais tout à l'heure, des festivals de cinéma comme le Festival international du film d'Aubagne ou le Festival du film d'animation d'Annecy. On a des distributeurs de cinéma aussi, on a des chaînes de télévision, on a des clubs sportifs aussi qui malheureusement, comme il ne peut plus y avoir de match, sont obligés de proposer des alternatives à leurs fans. Voilà, donc finalement les clients sont très variés, mais tous ont le même besoin, c'est de trouver une proposition pour leurs utilisateurs et leurs abonnés pour qu'ils puissent accéder au contenu qu'ils ont l'habitude de voir selon d'autres modèles.
Et ça reste très thématique par rapport à ton activité parce que déjà les plateformes que tu proposes sont pour des gens qui travaillent sur des domaines spécifiques. Donc le côté généraliste ne se développe pas, ça reste le côté thématique qui se développe.
Alors oui, de toute façon Kino a toujours eu une ADN depuis le début sur des contenus thématiques, donc des contenus de niche, des contenus spécialisés avec des plateformes comme Tank et dédiées aux documentaires d'auteurs, des plateformes comme la Cinéthèque qui sont dédiées aux grands films du XXe siècle. Voilà, on a toujours eu tendance à pousser des plateformes qui sont assez spécifiques et qui sont pas les plateformes généralistes qu'on peut voir avec des contenus type Netflix ou autres.
Et alors comment ça se gère ça, parce que déployer des nouvelles solutions à distance avec l'équipe, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez réussi à vous organiser assez vite pour faire face à l'urgence des clients?
Alors ça, c'est sûr que c'est une de nos forces en étant une start-up. On a une certaine agilité. On avait déjà l'habitude avant le confinement de fonctionner en tout dématérialisé. La plupart des membres de notre équipe travaillent 1 à 2 jours par semaine en télétravail. Donc on avait déjà tous les outils à disposition pour fonctionner à distance. Donc ça n'a pas posé de soucis et ça n'a pas du tout ralenti notre capacité de production.
Et justement, par rapport à ce côté équipe, est-ce que quand vous avez vu le Covid arriver en France, vous avez interprété ça comme une augmentation potentielle de la demande en VOD et en streaming? Et du coup, vous aviez déjà commencé un petit peu à préparer ça en équipe?
Alors, c'est-à-dire qu'on a été aussi surpris que tout le monde, hein, pour être tout à fait honnête, hein, la semaine précédant le Covid, on n'avait pas du tout prévu que tout le monde se retrouverait à confiner chez soi, à travailler à distance. Mais finalement, ça s'est très bien organisé. Dès qu'on a eu l'information, on a informé toute l'équipe qui a pu récupérer tout le matériel nécessaire pour travailler depuis chez eux. Et on s'est dit qu'effectivement, il y allait avoir des sujets qui allaient s'accélérer et puis d'autres qui allaient se ralentir finalement. Surtout les gros projets qui impliquaient beaucoup de niveaux d'hiérarchie. Chez nos clients, on savait que ça allait mettre du temps, plus de temps. Par contre, pour tous les petits projets, oui, ça s'est accéléré vraiment très très fortement. Et on s'en doutait.
Et justement, est-ce que vous avez des retours déjà sur les plateformes mises en place? C'est-à-dire, est-ce que l'augmentation de la fréquentation de ces nouvelles plateformes pour les clients arrivants est aussi forte que pour vous le nombre de nouveaux projets?
Oui, ça a été, comme je disais tout à l'heure, ça a été une opportunité pour nos clients existants. Certains ont fait jusqu'à x10 sur leur trafic habituel. Et puis pour les nouveaux clients qui sont arrivés là en cours de route, comme le Festival d'Aubagne qui a déjà eu lieu, hein, qui se tenait justement uniquement sur une semaine, et qui a pu accueillir, donc on leur a mis en place la plateforme en l'espace de 2-3 jours. Et ils ont pu accueillir le festival sur la plateforme et accueillir près de 20 000 spectateurs, 20 000 utilisateurs uniques.
Ils ont conservé leur nombre de festivaliers, c'est ça que tu veux dire?
Alors, ils ont, je crois même, eu plus de festivaliers que ce qu'ils avaient habituellement en physique, puisque bah, l'intérêt tout simplement d'une plateforme VOD, c'est que même les gens qui n'ont d'habitude pas la possibilité de se déplacer pour aller voir le festival ont quand même pu avoir accès à la section du festival depuis chez eux.
Tout ça, ce sont des signes très engageants, très positifs. Quelles sont les perspectives là pour toi et Kino dans les prochains mois? Est-ce que vous allez continuer justement à augmenter les plus petits projets en laissant en stand-by les plus gros, ou en tout cas en leur laissant le temps de mûrir? Est-ce que l'équipe va grandir? Est-ce que vous allez devoir multiplier par deux les effectifs?
Alors, on a des recrutements qui sont déjà en cours, notamment au niveau de l'équipe technique, puisque forcément, qui dit plus de clients dit plus de maintenance ensuite et nécessite aussi de faire évoluer le logiciel à la vitesse des évolutions technologiques sur le marché. Donc oui, on a des grosses perspectives de recrutement sur les mois à venir et même les années à venir. Aujourd'hui, voilà, cette année, on a déjà réalisé l'équivalent du chiffre d'affaires de l'année dernière sur le premier trimestre. Donc on a des perspectives très intéressantes qui se présentent devant nous.
Un des exemples les plus parlants dans le panel de clients de Kino, c'est Tank, parce qu'on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux, notamment sur des thématiques spécifiques d'actualité à travers le monde. Est-ce que c'est un des modèles types de ce que sera le streaming de demain, c'est-à-dire face aux acteurs mondialisés, tu as mentionné Netflix et d'autres, est-ce que on va voir de plus en plus de chaînes qualitatives en VOD arriver après le confinement, encore plus que ce qui aurait dû arriver?
Complètement. Oui, on voit bien que de toute façon, la VOD s'ancre dans les usages et le confinement ne fait qu'accélérer en fait ce mode de consommation qui avait déjà démarré depuis quelques années. Si on revient un petit peu en arrière, hein, 5 ans en arrière, la date de la création de Kino, à l'époque, une personne sur deux ne savait pas ce qu'était Netflix. Aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant de se dire, mais tu ne sais pas ce qu'est Netflix, mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça que c'est rentré dans nos vies, ces modes de consommation-là. Et aujourd'hui, voilà, le confinement accélère ça. Tank, c'est un de nos clients de la première heure, hein, avec qui on a commencé en 2016, et c'est une des plus belles réussites de Kino d'ailleurs. De toute façon, c'est sûr, il va y avoir une multiplication de ces propositions de services avec du contenu alternatif. On le voit déjà aux États-Unis aujourd'hui. Le ménage américain moyen cumule jusqu'à 4 offres de VOD différentes. Donc, comme à l'époque on faisait avec les DVD, ça ne posait pas de souci de renouveler très souvent les locations de DVD qu'on faisait. Aujourd'hui, ça va nous paraître tout à fait normal d'avoir plusieurs offres de streaming et en fonction des envies du moment, on va aller sur la plateforme avec le contenu adéquat.
Donc en fait, on va mêler généraliste, voilà, au niveau mondial et puis en fonction des thématiques qu'on aime, quoi. C'est ce que tu es en train d'expliquer.
Complètement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense qui va advenir dans les prochaines années.
Et justement, cette accélération-là assez vive pendant le temps du confinement, qu'est-ce que ça va vous permettre au niveau technologie chez Kino? Est-ce que quelque chose sur lequel vous travaillez, finalement, vous l'avez enclenché maintenant?
Alors, finalement, on n'a pas enclenché vraiment des choses nouvelles suite au confinement, mais on a un développement qui est continu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose une solution qui est complète et clé en main, qui a plus de 250 fonctionnalités. Et donc, c'est un petit peu notre travail de tous les jours l'améliorer pour rester compétitif déjà par rapport à nos concurrents sur le marché. Et puis, comme je disais tout à l'heure, pour suivre les trends technologiques, puisqu'un utilisateur de Netflix, il va s'attendre à avoir le même niveau de service, même si on est sur une petite plateforme indépendante qui n'a pas du tout les mêmes moyens. Donc, c'est vraiment ça notre enjeu. C'est d'être capable de mettre à disposition de nos clients un service technique qui soit au même niveau que les plus grands majors sur le marché. aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, par exemple, c'est de mettre à disposition de nos clients non seulement un système qui va leur permettre de facilement mettre leur contenu en ligne et de les monétiser, mais aussi toute une série d'applications en marque blanche qui vont être prêtes à l'emploi très rapidement pour pouvoir donner des applications sur mobile, sur PC, sur Smart TV. Voilà, donc tous ces éléments-là, des éléments pour faire de la recommandation intelligente de contenu. Donc finalement, toutes ces fonctionnalités qu'on peut retrouver sur les équivalents de Netflix ou Amazon Prime, pour que justement nos clients puissent aussi les proposer à leurs clients.
Merci beaucoup Pierre. Deux dernières questions, un peu en dehors de la VOD. Là on parle d'un parcours de croissance de ton entreprise, et quelle émotion justement domine depuis le début de la pandémie en France chez toi ?
Vaste question. Je dirais que c'est le calme. Le calme parce que tout simplement, quand on est au bureau avec toute l'équipe, quand on est pris dans l'effervescence de tous les projets, tous les sujets, les problèmes quotidiens, c'est très difficile de se concentrer. Là aujourd'hui, ça fait plus d'un mois qu'on est en télétravail à distance, donc on travaille tous les jours hein, depuis le confinement. Il n'y a pas eu de chômage dans notre équipe, chômage partiel. Mais l'intérêt que j'ai trouvé moi à ce confinement, c'est que moi ça m'a permis vraiment de me concentrer et de pouvoir traiter tout un tas de sujets que j'avais pas le temps de traiter au quotidien parce que j'étais vraiment pris dans le feu de l'action. Donc moi ça m'a vraiment évoqué un sentiment de calme, et donc personnellement voilà, je commence ma journée en faisant un petit peu de yoga et ensuite je démarre mon activité en étant focus sur chacun des sujets que je vais aborder pendant la journée.
Et toute dernière question, on entend beaucoup le monde d'après, on le voit beaucoup apparaître sur les réseaux, dans les échanges, dans les discussions, chez les journalistes et ailleurs. Comment est-ce que toi tu prépares ce monde d'après dans lequel tu veux vivre, dans lequel tu aimerais vivre ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ça ?
Alors, d'un point de vue professionnel, c'est effectivement trouver toujours plus de solutions pour mettre en place des services, que ce soit pour de la formation, pour des festivals, pour des clubs sportifs, pour que justement ils aient des alternatives si jamais une situation comme celle-là se reproduit. Et puis d'un point de vue personnel, c'est tout simplement, pas plus tard qu'hier, une petite virage à Ardiland pour faire pousser sur mon balcon mes légumes et mes fruits, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement on avait une grosse dépendance du système qui était autour de nous, et que peut-être que gagner un petit peu en autonomie d'un point de vue personnel, c'était peut-être pas si mal.
Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage.
Avec plaisir.
Et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce deuxième épisode dans N'attendant la suite. Pour rappel, merci à toute l'équipe d'Alvéol Media, Podcast Taylor, Audio Swell au Sound Design et Maxime Dervé à l'illustration. Retrouvez-nous sur notre site alvéol.media, sur toutes les plateformes de streaming que vous aimez utiliser pour vos podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Pour le prochain épisode, il sera question de santé et d'attente. Bonne journée.